de ce deuxième cycle de cette année universitaire consacrée à la conservation et à la restauration du patrimoine. On a vu plein de choses, il en resterait beaucoup à voir, mais bon, voilà, 5 séances, c'est 5 séances. Il y a un domaine que l'on n'a pas du tout abordé, c'est celui de l'architecture, la restauration des monuments. Et j'avais envie d'aborder aujourd'hui d'une manière un peu particulière, qui est la suivante. Vous savez, la question de la restauration des œuvres et des monuments en particulier peut quelquefois faire l'objet de discussions. On a beaucoup parlé technique, on a surtout parlé beaucoup d'déontologie dans les séances précédentes. Et je voulais ce soir vous servir un certain nombre d'exemples de restauration de monuments qui ont beaucoup fait parler dans les années dernières, dont un monument un peu particulier, vous comprenez pourquoi tout à l'heure. Et je voulais finalement qu'on discute autour de ça. Quelquefois d'ailleurs, la restauration de certains de ces monuments a vraiment fait polémique. Et je voudrais qu'aujourd'hui vous mettiez à la fois à la place de, j'allais dire, de professionnels de conservation-restauration que nous sommes petit à petit devenus au cours de ces séances. Hein. Modestement, d'accord, mais quand même. Et aussi que vous mettiez d'une certaine manière à la place de journalistes spécialisés dans un domaine qui serait celui de la restauration du patrimoine et que vous puissiez donc face au cas que je vais vous montrer... dire votre avis, argumenter dans un sens, dans un autre, dire pourquoi vous êtes d'accord ou pas d'accord pour la restauration qui a été évoquée. Bref, c'est par ce biais-là que je voudrais qu'on aborde la question de la restauration de l'architecture. Parce qu'après tout, restaurer un monument, ça peut être très simple. Hein, quand, par exemple, on nettoie une façade, alors il y a mille manières de faire, ok. Hein, enfin, on ne va pas peut-être parler aujourd'hui du niveau des grains de sable que l'on met ou qu'on ne met pas dans l'eau pour nettoyer la façade. Ça ne me paraît peut-être pas très, très passionnant. Par contre, il y a d'autres questions, encore une fois, plus polémiques, qui peut-être sont à évoquer. On va essayer de le faire aujourd'hui. D'ailleurs, ce regard polémique sur la restauration, il peut quelquefois exister pour autre chose que la restauration de monuments. Il y a quelques années, par exemple, et on va commencer par là, avant de plonger dans l'architecture, il y a, et je passe très vite sur nos règles, une œuvre qui a fait en France l'objet d'une assez grande polémique, dont vous avez sûrement entendu parler au niveau de sa restauration, une œuvre qui est une peinture, une très grande peinture, c'est celle-ci. Vous connaissez, je pense, ce tableau, hein, les fameuses noces de Cana de Véronèse. Hein. Et ce tableau a fait polémique autour de sa restauration. Là, vous le voyez avant sa restauration, là, vous le voyez après sa restauration. Il y a un petit détail qui change, un petit élément qui change, c'est lequel? Voilà le tableau. Voilà le tableau avant. Alors, la clarté, pas forcément parce que... Alors, c'est sûrement vrai, hein, parce qu'évidemment, après, c'est forcément plus clair qu'avant, effectivement. Simplement, mes photos valent ce qu'elles valent, hein, et je ne suis pas sûr qu'elles soient très subtiles, mais c'est sûr que le tableau était plus crasseux, plus sale, plus encrassé avant qu'après. Mais il y a autre chose qui a...
Le personnage qui est devenu vert.
Il y a des couleurs bleues. Qui
non, mais le personnage rouge est devenu vert.
En haut à droite.
Oui. En haut à droite.
Non.
En bas à gauche.
En bas à gauche.
Il est
devenu vert.
Celui-là.
Celui-là,
oui.
Et vous parliez d'un autre.
En haut à droite.
Lequel?
Eh bien non, ça c'est pas la restauration, ça.
Non, c'est ça, c'est avant.
Oui, non, mais après, il y a des personnages en haut à droite, je peux arriver.
Qui sont différents. Alors, donc, on regarde à la fois le personnage en rouge grenat à gauche, là, et les personnages à droite. On va voir ce qui a pu changer. Vous photographiez bien de votre tête, hein. Enfin, voilà, donc, avant. Voilà, après.
Ah oui, il y en a un. Vous
ne le voyez pas,
ça?
Ah si.
Oui,
il était tellement... Regarde le bleu du bas. Celui qui a le dernier, le bleu.
Oui, les bleus, avant, on ne les voyait pas. Les ouais.
Alors, effectivement, le tableau, vous le disiez, a un peu changé de couleur. Parce que très encrassé avant, il était moins encrassé après. Hein. Nettoyage de l'œuvre. Il y a eu également quelque chose qui, justement, fait changer les couleurs du bleu un peu éteint.
Oui.
Qui était un bleu gris, hein, ou au rouge un peu éteint, c'est le cas de la figure en haut à droite, effectivement, hein, et qui là leur donne dans la version restaurée plus de peps, si j'ose dire. Et comment ça s'appelle cette opération qui a pour but, après le décrassage, de redonner aux couleurs une approche qui était, enfin, une intensité qui était celle de davantage de l'origine. Comment est-ce qu'on appelle? Quelle est cette opération? Comment est-ce qu'on appelle? On en a parlé.
Enlever le champ.
Alors, L'œuvre n'était pas chancée, c'est-à-dire qu'elle était au Louvre, il n'y avait pas de problème d'humidité, donc les vernis
n'allègent pas.
Pardon ?
On allège les vernis.
Voilà. On a fait ce qu'on appelle un allègement. Vous savez, on avait vu qu'il y avait effectivement des chancis. Quelquefois, pour enlever les chancis, il faut alléger. Mais on a vu également quelquefois que les vernis s'oxydaient. En gros, ils jaunissaient. Et faisaient que des couleurs bleues comme celles que l'on a là devenaient gris-grisouilles, comme ce que vous voyez là. Hein.
Mais quand même, le rouge devenir vert.
Alors voilà. Il y a la chose. Effectivement, peut-être la plus marquante, au-delà du nettoyage, au-delà de l'allègement des vernis qui a permis de redonner, un panorama coloré plus satisfaisant, la figure à gauche, évidemment, tout le monde la voit, hein, à gauche là, était rouge là et est devenue verte là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé ?
Elle avait été retouchée dans le temps.
Retouchée, donc repeinte, quoi.
Repeinte, hein.
Autrement dit, ce personnage avait été repeint. Il était à l'origine de quelle couleur alors ?
Vert.
Et donc il est devenu rouge. Donc qu'est-ce qui s'est passé au moment de la restauration, à votre avis ?
Quand on a gratouillé.
Peut-être.
Quand on a gratouillé, on a vu que dessous c'était.
Voilà, on s'est aperçu effectivement que la robe du personnage avait été repeinte. Et donc on a enlevé le repeint pour remettre la robe telle qu'elle était. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Et pourquoi, à votre avis, cette intervention a fait tant parler ? Je ne sais pas si vous vous en rappelez, hein, mais dans la presse, il y avait beaucoup de choses. Je vous montre d'ailleurs le détail. Hein. Ils ne sont pas très bons, mes détails, mais voilà, avant, voilà, après. Ce n'est pas très bon. J'aime autant montrer le tableau complet, c'est plus bon.
Mais sait-on pourquoi on avait transformé la couleur ? Est-ce qu'on le sait ?
Voilà. Ça, c'est la question. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui... Qui avait fait ce repeint ? Qui avait fait passer ce personnage du vert au rouge ? Là est effectivement la question. Hein. Et alors, quel est votre avis, justement ? Est-ce que vous pouvez en avoir un ?
Non.
Non ?
Le vert...
C'était pas Véronèse. Véronèse, il aimait le vert.
Derrière le personnage rouge qui est à droite, il n'y en a pas d'autre dans la toile.
Oui.
Et donc ça, c'est vrai que c'est quelquefois un peu surprenant.
Alors, sans doute. Alors, il y a peut-être quelque chose qui est de l'ordre de l'harmonie colorée, mais évidemment, ça reste assez subjectif, vous voyez. C'est-à-dire qu'on peut dire, par exemple, « Oh, ben, c'est mieux vert, parce que ce vert-là rappelle celui-là et celui-là. Mais en même temps, rouge, ce serait mieux, parce que ça rappelle ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, voilà. Hein. » Donc, vous voyez, j'allais dire que les arguments... Il peut y avoir les deux arguments. Mais qu'est-ce qui fait, à votre avis, que la décision a été prise d'enlever le rouge pour mettre le vert à jour ?
Restituer le travail de Véronèse. Je veux dire, Véronèse, il avait choisi cette couleur-là, ce vert.
Véronèse,
il restitue.
Voilà. C'est effectivement ça. C'est-à-dire que, a priori, c'est bien Véronèse qui avait passé en vert. Et si on a enlevé le rouge, c'est parce qu'on a prouvé, a priori, qu'il y a eu des études scientifiques faites, notamment effectivement par la matière, la manière dont c'était passé, si vous voulez aussi. Je crois qu'il y a eu également des analyses pour tenter une datation de la couche picturale supérieure, c'est-à-dire le rouge. Et tout ça a permis de voir que ce repeint avait été effectivement postérieur à la réalisation première de la toile. Hein. Donc on avait là un repeint un peu unique d'ailleurs, parce que le reste de la toile était assez homogène. Hein. Pourquoi d'ailleurs une époque X ou Y on a fait passer ce personnage du vert au rouge, ça on ne sait pas. Et alors, par contre, des gens ont été très opposés à ça. Il y a eu encore une fois des débats dans la presse. Ceux d'un côté qui étaient d'accord en disant il semble bien, après toutes les analyses qui ont été faites, que Véronèse avait conçu ce personnage en vert, donc on le remet comme Véronèse l'a conçu. Mais d'autres disaient ah non, on aurait dû laisser le rouge. À votre avis, quels étaient leurs arguments ?
L'histoire du tableau.
L'histoire du tableau, effectivement.
C'était quoi alors l'histoire ? Pourquoi est-ce qu'on l'a
repris ? Ah ça, on ne le sait toujours pas. Non, on
ne sait pas qui est ce personnage.
Ce personnage est sans doute les chansons. Hein. Bon, c'est les noces de Cana. Hein. Donc, il y a un personnage, sont des personnages, j'allais dire...
Et c'était une retouche précoce ou plus tardive ?
Alors, voilà, c'était aussi un des arguments. C'est-à-dire qu'un des arguments des anti-verts, pour ceux qui étaient d'accord pour garder le rouge, était de dire, peut-être est-ce postérieur à Véronèse, et encore, est-ce que les preuves qui ont été amassées sont suffisantes, certaines, etc. Mais d'abord, est-ce que ce n'est pas une retouche de l'époque de Véronèse, mais un peu plus tardive à lui une fois qu'il a fini de faire son truc, bah, peut-être que quelqu'un d'autre, mais en son temps même, l'a fait. Voire même quelqu'un sous la direction de Véronèse, mais peut-être pas Véronèse lui-même, donc peut-être pas avec le même talent. Bon. Et puis même, d'autres gens ont dit, mais après tout, ça a peut-être été fait 15 ans après la fin du tableau. Bah, c'est déjà un élément de l'histoire du tableau. Enfin, le tableau a été plus vu avec ce personnage rouge qu'en vert.
Et la chimie des couleurs ne donnait rien.
Bah, a priori, donnait simplement le fait qu'effectivement, le rouge avait été passé postérieurement, j'allais dire assez postérieurement, mais effectivement, le débat de savoir si c'était carrément, par exemple, au XVIIIe siècle, hein, ou 20 ans après la fin de la réalisation de Diablo par Van Ness, n'est pas tranché, semble-t-il. Hein. D'où, effectivement, le débat entre les pour et les contre, si vous voulez. Les pour qui étaient d'accord pour remettre le vert parce que Véronèse, au moins dans une première version de l'œuvre, le voyait vert, et ceux qui disaient bah non, on n'aurait pas dû, parce que, après tout, c'est un élément de l'histoire de l'œuvre. Le personnage a été rouge à un moment, et peut-être que cette retouche n'est pas tellement tardive, si vous voulez, après l'intervention de Véronèse. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, je vais simplement vous montrer ce cas-là pour vous montrer comment, à partir un peu d'un détail, un peu un détail, hein. Il peut y avoir des discussions. Alors, on va maintenant passer de la peinture au monument, au bâtiment, et je voudrais vous montrer quelques cas de lieux qui ont fait l'objet de travaux de restauration. Premier petit dossier, qui est ce lieu-là. Ça, c'est le château de Blandy-les-Tours. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. C'est pas trop loin de Fontainebleau. Alors, évidemment, à l'ombre de Fontainebleau, quand on a un château, c'est un peu difficile, hein. On connaît plus Fontainebleau que Blandy-les-Tours. Hein, bon. Voilà le château de Blandy-les-Tours. C'est un aimable château des 13-14e siècles. Vous voyez là une photo au milieu du siècle précédent. Voilà, en gros, il restait l'enceinte et les tours, plus un seul toit. Hein. Je vous montre une autre photo, une carte postale aussi, de ces mêmes années ou presque. Hein. Voilà. C'est le même, hein. C'est le même, et oui, il vit de l'autre côté. Hein. Voilà. Oui, si, si, c'est le même. Mais simplement, la tour que vous voyez là, elle était à l'autre côté avant. Hein. Celle qui est à l'autre bout, donc évidemment.
Oui, mais alors on ne voit pas de chapelle, là.
La chapelle, elle est à l'extérieur du château. Hein, c'est, en fait, c'est l'église paroissiale. Ce n'est pas la chapelle du château, c'est l'église paroissiale qui est hors rempart. Donc voilà comment se présentait le château de Blandy-les-Tours autour de 1960. Et voilà comment il se présente aujourd'hui.
Où ?
Voilà une vue, en voilà une autre. Je vous montre l'avant, par exemple là, avec l'église derrière. Hein. Voilà. Voilà avant. Voilà après. Voilà. C'est conséquent. Alors, qu'est-ce que vous auriez à dire ? Est-ce qu'on peut discuter de ça ? Est-ce qu'il y a les pour, les contre ? Enfin, qu'est-ce que vous en pensez ?
L'enceinte a été toute refaite.
L'enceinte semble avoir été assez largement même reconstruite. Ouais.
Et puis, au-dessus des tours, ces espèces de...
Les toits ?
Les chapeaux, parce qu'on est sûr que c'était pas les toits.
Alors, les toits, effectivement, ont été reconstruits.
Mais on avait
Alors,
des gravures, après les photos.
Il existait quelques éléments plus ou moins fiables, bien postérieurs au Moyen-Âge, hein, plutôt du 17-18e siècle, qui donnaient des idées de ça, mais évidemment pas de description ni de plan systématique, hein, qui permettait de voir. Pardon ?
Ça a été restauré avec un esprit beaucoup plus moderne.
Ah oui, oui.
Qu'est-ce que vous entendez par un esprit beaucoup plus moderne ?
À moins d'époque.
Oui. Mais encore.
Ce sont les couleurs du village.
Il y a quand même des couleurs déjà qu'on ne peut pas restituer.
Il y a quand même une harmonie là, entre le toit de l'église et puis
le château.
Ils en ont tenu compte.
De l'harmonie entre l'église et le château ?
Oui,
les couleurs du toit.
Peut-être. Ben, les toits, ils sont faits en quelle matière ?
En tuiles.
C'est des tuiles, donc ben, les tuiles, elles ont cette couleur-là. Mais effectivement, il y a quelque chose qui a été un peu gommé. C'est peut-être ce à quoi vous y allusion, d'ailleurs. C'est quoi, finalement? Voilà, c'est ça. L'âge, la patine, je dirais. Effectivement, mais ça, c'est tout le problème quand on restaure un monument. C'est que la patine, autrement dit, les formations voilà, végétales et autres, hein, mousse, lichen, etc., ben, disparaissent. Alors, elles vont se remettre, hein, mais elles disparaissent. En gros, c'était grisouille et un peu verdâtre, hein, et ça devient blanc, parce que la pierre est blanche. Donc effectivement, la patine, c'est peut-être ce que vous disiez d'ailleurs, hein, en disant « c'est très moderne », entre guillemets, la patine est partie. C'est-à-dire que, voilà, alors on a effectivement reconstruit des éléments, notamment certains éléments du rempart qui étaient effectivement détruits. On a construit des toits qui n'existaient plus, il n'y en avait plus un seul, vous vous rappelez, hein, avec plus ou moins des éléments de documentation, et puis effectivement la patine n'est plus là. Les toits, même si on n'a pas d'éléments de documentation, c'est-à-dire si on n'a pas des dessins qui montrent le château avant sa destruction, qu'est-ce qui peut éventuellement autoriser quand même à reconstruire les toits?
D'autres châteaux.
Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça. Par comparaison avec d'autres châteaux du secteur, bon, c'est vrai que ces tours rondes au Moyen-Âge, on sait, étaient toujours couvertes. Hein. A priori, en remettant un toit conique sur ces tours, on ne se trompe pas beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Bon. Donc... c'est vrai qu'on peut imaginer, notamment pour une tour comme celle-là, hein, voilà, ou celle-là, qu'on a en gros retrouvé, sinon absolument la lettre, du moins le volume général.
Et on résout la conservation.
Alors voilà, on résout aussi la conservation. Hein. Pour une raison simple, c'est qu'avant, il n'y avait pas un toit. Ça veut dire que...
à tous les vents.
Voilà, c'était à tous les vents, à toutes les pluies, quoi. Hein. Donc effectivement, côté conservation, pas formidable.
Hein. Comment on a pu trouver l'argent pour faire ça alors qu'il y a plein de choses qui...
Alors voilà, ça c'est aussi une grande question. C'est-à-dire que, ouais, ça c'est effectivement une grande question importante qui d'ailleurs a été très 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 évoquée en Seine-et-Marne. Je crois que c'est en Seine-et-Marne. Fontainebleau, c'est bien en Seine-et-Marne. Les Douai en Géo, oui, c'est ça. Hein. Oui. Voilà, donc ça a été dans le département, parce que ce château appartient au département. Qui a voulu, n'est-ce pas, faire tout beau, tout propre, et qui n'a pas hésité du tout à mettre beaucoup de moyens là-dessus, mais au même moment, d'autres lieux patrimoniaux du secteur, eux, tiraient la langue, si vous voulez. Et c'est une question qui a été posée, effectivement. Beaucoup de gens disaient, ben, c'est bien gentil de mettre plein d'argent là-dessus, et de reconstituer des toits qui ont disparu, mais peut-être qu'il y a possibilité... Qu'est-ce qu'il y aurait comme autre possibilité, finalement? À votre avis, plutôt que de faire ça, et peut-être effectivement de grever le budget d'un département et de faire que d'autres monuments ou d'autres, je pense à des musées par exemple, pendant ce temps-là, crever la faim, quelle autre solution il y aurait pu avoir? Je vous remonte peut-être le château sans tout ça.
Laisser que la pierre.
Laisser que la pierre, mais on n'aurait pas résolu le problème qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que l'eau aurait continué de tomber à l'intérieur.
On pouvait être une protection.
Voilà, c'est ça. Proposer, voilà, mettre des protections, peut-être des protections métalliques, effectivement, hein, qui n'étaient pas forcément visibles, d'ailleurs, hein, mais qui permettaient au moins d'empêcher l'eau de dégrader le monument. Hein. Et puis, oui, pardon.
Il y a un reproche qu'on peut faire, à mon avis, c'est que quand on parlait de déontologie, on disait qu'il faut que les restaurations soient visibles. Là, je pense qu'il est impossible de savoir quelle est la différence entre...
C'est vrai ça. Hein. Là, d'ailleurs, ça rejoint l'idée de la patine et puis du côté trop moderne que vous évoquiez tout à l'heure. Hein. Là, c'est un peu difficile de dire. Alors peut-être qu'en regardant de près, on verrait. Hein, je ne sais pas. Hein. Mais globalement, je suis d'accord avec vous. On a un petit peu de mal à dire. Tiens, qu'est-ce qui est ancien, qu'est-ce qui n'est pas. Hein. Alors, il y a un petit côté bien propre, hein, même à l'intérieur. Vous voyez, il y a une petite cour, tout ça.
C'est pas grave ça.
C'est pas trop. Ben, c'est pas grave, mais.
Non, mais l'herbe.
Ah oui, oui, c'est pas très grave. Mais c'est vrai que. Effectivement, les éléments anciens, les éléments restitués, en tout cas de loin, on les devine pas, hein, on les voit pas. Il y a peut-être aussi autre chose que l'on a un peu perdu.
La végétation a été supprimée en grande partie.
Oui.
Les arbres.
Ouais. Quel aurait pu être, à contrario, l'intérêt, quitte à protéger hein, les tours, hein, par exemple, quel aurait été l'intérêt de garder ça, comme ça?
Moins neuf,
oui.
Mais on en a fait quoi?
Oh, c'est devenu un, un lieu de, comment dire, d'animation médiévisante. Voilà, il y a des fêtes médiévales, il y a des choses comme ça. Hein.
Le fait d'avoir enlevé la végétation donne à la route qui scinde ce château une allure très curieuse. Il y a la route qui est circulaire, il y a le château avec l'enceinte, ça fait un peu...
Oui, je suis d'accord avec vous. Oui, là, effectivement, là, l'écrin de verdure, si vous voulez, donnait effectivement une allure assez différente à ça.
Hein. Mais on sait à quoi remonte cet écrin de verdure, parce qu'il est peut-être postérieur à...
Il est certainement postérieur au Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, l'écrin de verdure n'existait pas. Finalement, qu'est-ce qu'il y avait autour du château au Moyen-Âge ?
Des fossés.
Des douves. Alors, elles sont vaguement visibles là, mais effectivement... mais par contre, il n'y avait pas de route. Enfin... Et pas de route bitumée comme ce que vous avez là. Disons que de haut, c'est un petit peu rude, effectivement. Alors justement, qu'est-ce qu'on a aussi perdu en faisant ça ?
On a perdu l'âme du château.
D'une certaine manière. Et quand vous dites l'âme, vous pouvez préciser peut-être ?
On a l'impression qu'on a effacé une partie de son histoire.
Laquelle, par exemple ?
La destruction.
La destruction.
Son implantation en campagne.
Ouais.
L'harmonie avec la campagne et le château, alors que là, on a l'impression d'un truc artificiel, de posé.
Un côté un peu station-service.
Playmobil.
Alors, c'est peut-être moins fort quand on y est, je ne sais pas. Hein. Mais c'est vrai que de haut comme ça, c'est assez... Moi, encore une fois, ce qui me frappe beaucoup, c'est... Alors, certes, le château lui-même, mais la route dont vous parliez, et puis le côté très rectiligne de ce qui se passe à l'intérieur, qui, je trouve, n'est pas du tout médiatique. C'est-à-dire que ce genre de choses, enfin là, vraiment, vous voyez, ça, c'est bien. C'est une station-service, quoi, un peu. Hein.
Oui, c'est facile à retoucher.
C'est... Alors, c'est facile à... Oui, n'empêche que c'est défait, quoi. Mais c'est vrai que c'est facilement inversé.
Hein. On a l'impression que c'est une vitrine.
Oui, un peu. Bah, d'ailleurs, c'est comme ça que le conçoit le département. Hein. D'ailleurs, une sorte de vitrine du département de Seine-et-Marne.
Est-ce que les monuments historiques ont leur mot à dire ?
Bien sûr, d'autant que le château est classé. Il était même, je crois, sur une des premières listes de classement, donc il est depuis très anciennement. Et justement, qu'est-ce que, quand on voit ça, qui est un peu l'état du château tel qu'il était au milieu du 19e, quand je crois il a été classé. Je ne sais pas s'il ne faisait pas partie de la première liste de Mérimée en 1840, quelque chose comme ça. Hein. Et justement, qu'est-ce que, justement, on a peut-être perdu aussi. Alors évidemment, le problème des restaurations, c'est que c'est toujours ça. Hein. C'est comme notre Véronèse de tout à l'heure. Hein. Et là, si on touche à rien, il ne se perd rien. Hein. Quand on commence à toucher, évidemment, on commence à modifier. Vous voyez, un équilibre plus ou moins précaire. Qu'est-ce qu'on a, je crois, aussi perdu ? Alors, on a peut-être gagné autre chose, hein, mais qu'est-ce qu'on a perdu aussi ?
Le passage du temps.
Oui, toute la question de la patine dont on parlait tout à l'heure. Puis il y a quelque chose, moi, qui me frappe quand on voit ça.
L'interpénétration avec les bâtiments...
Et de la nature, oui.
Pas seulement de la nature, le village autour.
Oui, le lien village-bâtiment, oui.
Je trouve qu'on perd aussi beaucoup l'aspect fortification du château.
On perd avec la restauration ? Tiens, vous trouvez que c'est moins évident que ça rend moins évident l'aspect fortification du château ? Ah oui ? Moi, je dirais plutôt l'inverse, mais...
Ouais.
Là, je trouve que là, le côté fermé est plus visible, d'autant qu'on a restitué une partie des remparts qu'on ne voyait pas avant. Non, moi, ce qui me frapperait plutôt, je ne sais pas quel est votre avis, hein, ce qui me frapperait plutôt, c'est que ce château-là, pour moi, c'est... Il y en a d'autres, hein, il y en a mille autres, hein, mais c'est vraiment quelque part un peu le prototype du château romantique. D'ailleurs, s'il a été classé à l'époque de Mérimée, un grand romantique, hein, c'est justement ce que ce château-là, il allait, vous voyez. Donc, on peut effectivement se demander, bon, il y a deux solutions, hein, mais le problème, en grande face, c'est que quelle que soit la solution qu'on prend, de toute façon, elle va être critiquée. Donc, mais en même temps, c'est intéressant de voir ces choses-là. Et puis, bon. Mais évidemment, il y avait la solution qui a été prise, qui était celle de restaurer au maximum à l'identique, hein, avec tous les petits problèmes que l'on a vus, la patine s'en va, un certain charme peut-être s'en va aussi.
La végétation.
la végétation, qui est quand même un élément. Voilà, alors qui existait. Qui, ouais, ouais. Alors au Moyen-Âge, effectivement, la végétation n'était pas du tout comme ça, sûrement. Hein. Mais elle a pris de la place. Hein. Et cette dimension de végétation en communion avec le château, qui est une marque de son histoire, donne évidemment un aspect très romantique, qui évidemment est aussi important. Quoi. Mais voyez bien par là, quand même, quelles sont les problématiques sans parler de ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire des enjeux financiers, quand même. Hein. Voilà, qui sont. Donc vous voyez que c'est pas simple, hein, tout ça. C'est vraiment pas simple.
Est-ce que la végétation aussi ne risquait pas d'abîmer le...
Alors voilà, peut-être que la végétation aussi, notamment les arbres, risquait à terme d'abîmer, de créer des zones d'humidité. Enfin, voilà.
On peut toujours élaguer.
La restauration est prévue pour combien de temps ?
Pardon ?
La restauration est prévue pour combien
pour
de temps ?
Oui, pour tenir combien de temps ? La
pour
durée ? Oh ben, je pense que le plus longtemps possible sera mieux, quoi. C'est vraiment pas une restauration qui est vue comme aisément réversible, vous voyez voilà. Ce que je veux dire ? C'est pas quelque chose qui est fait pour se dire, bon, allez, on va faire ça pendant 10 ans, puis après, on verra autre chose, quoi. Effectivement, parce que, vous avez raison, il y a des restaurations qui peuvent être conçues comme beaucoup plus réversibles, beaucoup plus légères, beaucoup plus... qui permettent de protéger, etc., et qui sont plus réversibles. Sur les monuments, c'est difficile de faire de la réversibilité, j'allais dire architecturée, vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'il faut quand même un peu de dur pour protéger. Hein. Mais il y a quand même, on verra d'ailleurs des cas tout à l'heure, des éléments qui sont plus temporaires, on va dire plus réversibles.
Et puis que l'argent investi
eh oui.
Ne soit pas gaspillé.
Ben voilà, aussi.
Est-ce que le fait d'enlever la bâtine est systématique dans une restauration de bâtiment ?
Disons qu'il est plus ou moins poussé, je dirais. Souvent, quand même, le problème de la patine, c'est qu'elle pose aussi problème aux monuments. Quoi. Si vous lisez, par exemple, des mousses ou des arbustes poussés, c'est très joli, mais ça veut dire que votre arbuste, à un moment ou un autre, va avoir raison du monument. Quoi. C'est ça le gros problème. Vous savez qu'il y a eu des grands chantres de la patine et notamment de la végétation sur les monuments. Je pense notamment à un personnage que j'aime beaucoup qui s'appelle John Ruskin, hein, un Anglais du 19e siècle, hein, celui que Proust aimait tant. Hein. Et pour Ruskin... Il verrait ça et ce qu'on en a fait, il hurlerait. C'est-à-dire que Ruskin, c'est ça qu'il aime. Hein. C'est le monument médiéval, mais la manière dont le monument médiéval a été. Voilà, c'est ça, a vécu. Alors, on pourrait lui indurquer, bah oui, le fait qu'il ait été restauré, c'est aussi son histoire. Voilà. Et puis, si on laisse ça comme ça,
dans 3 siècles,
il n'y a plus rien. Hein.
Ben oui.
Alors, il y a peut-être, encore une fois, des solutions. Qui sont un peu entre les deux. Hein. On vient de parler des questions de réversibilité, donc faire des choses un peu plus légères, qui permettent à la fois de protéger, mais sans avoir des sommes absolument énormes, et qui permettent de protéger longtemps, mais de se dire dans 10 ans, dans 20 ans, bah, tiens, on va faire autre chose, on peut défaire ce qui n'a pas coûté très cher et qui a permis de protéger. Voilà, hein.
10
voilà.
Ans, c'est un peu court. Hein.
Oui, ça peut être plus, ça peut être moins. Hein. Ou bien alors des restaurations un peu plus douces, c'est-à-dire enlever un peu de végétation, mais aussi en garder, remettre certains toits, mais peut-être pas partout. Enfin, je sais pas, vous voyez, il y a tout ça aussi pour dire que chaque monument est un cas particulier, un cas spécifique. Alors, on va peut-être passer à un autre exemple.
Le fait qu'il y a un projet derrière,
oui.
Il n'a pas permis beaucoup plus de temps de construction, de restauration que de le garder sans projet autre.
Ça, c'est intéressant ce que vous dites aussi, parce que, effectivement, la restauration du monument est aussi fonction de ce qu'on va en faire. D'ailleurs, on a un peu dit ça avec les objets, finalement. Hein. Vous savez, on a dit à chaque fois qu'il fallait penser à l'avenir et autres. Et donc, vous avez raison d'être sur là-dessus. C'est aussi, parce que, bon, ce monument, il a aussi un propriétaire qui est le département, qui aussi voulait en faire quelque chose. Bah, ça compte aussi. Enfin, quand un propriétaire, aujourd'hui comme naguère, veut faire quelque chose, bah, il le fait, vous voyez ce que je veux dire. Après, on peut critiquer, hein. On peut pas être d'accord.
La vie, quand même, de ce monument qui continue maintenant, ouais. C'est pas une relique qu'on regarde.
C'est ça.
C'est
ça, voilà. Oui, on peut dire ça, effectivement, que c'est une utilisation. On a sauvé, alors peut-être un peu radicalement, mais on a quand même sauvé un édifice. Certes, on lui a enlevé une patine, un peu de son âme, un peu de son caractère romantique. Mais enfin, on l'a sauvé et on lui a redonné une vie nouvelle. Alors, elle était différente d'avant, mais enfin, elle existe quand même. Bon, à mon avis, les photos aériennes ne gagnent un tout petit peu Lego, si j'ose dire.
Oui, Playmobil.
Très Playmobil, voilà. Gâte un peu l'affaire. Hein.
les toits ont changé, ils étaient en ardoise sur la première.
Ah non, c'est qu'il avait bien fait.
Non, ils étaient en. Ils étaient sur le toit.
Dans le village, tous les toits sont noirs.
Ah ben oui, ça c'est. Oui, ça c'est.
Non,
mais non,
mais non.
Ah là, oui, oui, oui. Oui, alors, je pense que c'est dû au fait que c'est une carte postale des années 60. Vous savez, ces époques-là, on faisait des cartes postales faussement, enfin, noir et blanc. Et après, on colorisait, c'est donne... Voilà.
C'est ces maisons du village, elles sont
sur
la
oui, oui.
Non, il y a un rouge là.
Oui, il y a un peu rouge là, à gauche. Mais parce qu'on a colorisé en rouge là. Mais je pense que les personnes qui colorisaient ne savaient pas généralement du tout qu'elles étaient les vraies couleurs. Alors, on va peut-être regarder un deuxième petit dossier.
Ah oui,
bon, ben, le deuxième va être certainement plus beau. Voilà. Je vous emmène à Falaise. On était dans le bassin parisien, nous voilà en Normandie. Falaise, le château de Falaise, 12-13e siècle. Château célèbre, pourquoi ? Qu'est-ce qui est né au château de Falaise ? Guillaume le Conquérant. Guillaume le Conquérant, il est né là. Vous avez là une partie du château de Falaise, il continue vers vous. Hein. Là, c'est la partie supérieure avec le donjon, hein, le donjon du XIIe siècle, qui à l'origine était d'ailleurs plus haut, mais dont il reste une bonne partie quand même. Et un donjon qui lui a été accolé au XIIIe siècle, un donjon circulaire. Bien. Voilà donc le château de Falaise vers 1980, hein, avant des campagnes de restauration. Ça. Voilà donc le donjon de Falaise après restauration. Donc la restauration, je vais vous montrer les photos après, hein, mais voilà ce qu'elle a permis de faire. Qu'est-ce qu'on a fait finalement ?
Eh bien, protéger.
On a effectivement protégé. On parlait tout à l'heure de de choses un peu temporaires, réversibles. Là, c'est vraiment le cas. On a mis ces espèces de toiles de tente, hein, imperméables, enfin, qui permettent effectivement, sans reconstruire tout un bazar, de faire quelque chose qui est du réversible, qui dure, même si ça n'a pas duré 3 siècles. Hein. Voilà. Donc c'est quelque chose qui dure sans trop durer, tout en durant. Ça, ça a été un élément de la restauration. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre encore ?
Enfin, j'ai l'impression qu'il manque une paroi.
Une paroi à quel endroit ?
Parce que là, je ne comprends pas bien comment elle s'est...
À droite ? Alors, il y a deux tours. Hein. Il y a le donjon circulaire et le donjon quadrangulaire. Donc le donjon quadrangulaire, on lui a mis ses petits chapeaux temporaires qui durent, si j'ose dire. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ?
Qu'est-ce
qu'on a mis devant la façade ? Parce qu'évidemment, devant la façade, on a mis quelque chose.
Ça fait penser à des scènes de musique ou de...
Ah oui, un espèce de décor.
Oui,
alors, c'est pas un décor, hein. C'est du dur. Hein. Ce que vous avez là, c'est en ciment, enfin en béton. Je vous montre un peu plus près.
Non, mais...
Très moche.
Alors, voilà. À nouveau, donc ce que vous avez là, c'est pas des échafaudages avec des pubs, hein, comme on voit sur les murs. C'est bien du solide, du dur.
Hein. Ouais, un beau bloc.
Hein. À côté bloc. Voilà de près. Alors là, c'était en cours de travaux, hein, mais voilà donc les structures en cours de mise en place. C'est à peu près terminé, il y a encore des échafaudages. Hein. Mais voilà, donc ça, je ne sais pas si j'ai encore une photo ou pas. Je ne crois pas.
Non,
On peut revoir le début, s'il vous plaît. Avant. Encore avant. Voilà.
Ils ont refait les remparts aussi.
Ils ont refait, je ne sais pas, l'espace où il y avait une paroi qui était derrière là.
Alors, évidemment, on voit mal. Je n'ai pas trouvé mieux. Hein.
Derrière l'arbre,
ils ont enlevé l'arbre, ça c'est sûr.
On a l'impression qu'ils
ont enlevé l'arbre.
Ouais, moi j'ai l'impression que là, il y a un mur. Quoi.
Ah oui,
voilà. Oui.
Alors, on voit là des choses un peu noirchonnes.
Oui,
on a l'impression qu'il y a des poils. Alors, est-ce que c'est un gros trou ? Je crois pas.
De la végétation.
On a l'impression de végétation qui pousse sur le mur.
Voilà. En enlevant, ils ont eu des problèmes.
Peut-être.
Mais pourquoi rajouter ces machins ?
Mais c'est
très
moche. Oui,
c'est
une
chance de charme comme ça.
Voilà, donc ce qu'on a fait. Ouais. Alors, qu'est-ce que, à votre avis, alors, je moi, à votre avis, pourquoi on fait ça?
Ils s'en servent pourquoi maintenant de
C'est un lieu de tourisme. C'est un lieu de tourisme. C'est un lieu où on va, qu'on va visiter. Voilà.
Isolé, on dirait la cimenterie Lafarge.
Oui, oui.
J'avoue que je suis assez d'accord avec vous. Enfin,
il manque une paroi.
Oui, ben, oui, 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 un architecte en chef des monuments historiques. Ouais.
Il a autorisé ça.
Oui. Ah, non seulement il a autorisé, mais c'est lui qui l'a fait, quoi. Alors, c'est vrai que là se trouve où se trouvait l'entrée historique du donjon. Hein, voilà. Donc, vous voyez qu'on a... on a
interprétateur libre de...
Voilà, c'est ça. On a fait une espèce d'interprétation libre d'une entrée du donjon, avec ici une espèce de pont-levis. Hein, vous voyez qu'il y a pont-levis, là, enfin, voilà. Il y a des trucs... Bon, je ne sais pas comment dire. Hein. Il y a une sorte d'échauguette, là. Là, il y a des blasons, une sorte de balcon avec des blasons. Là, il y a carrément une peinture qui présente un chevalier. Voilà. Et puis là, il y a un mur en béton. Voilà. Alors, ce que je crois quand même, je n'ai pas réussi à trouver grand-chose, curieusement. Faut savoir que tout ça, il faut quand même savoir que ça, ça fait l'objet d'un procès.
Ah, bah quand même.
Oui, oui. Alors, finalement, l'architecte, qui s'appelle De Caris, je peux vous le dire, d'ailleurs, n'a pas écopé de grand-chose, mais enfin, ça a un petit peu quand même fait du bruit dans les chaumières. Ce que je crois quand même, vous le voyez sur la photo, c'est que là, ce que vous voyez là, derrière, là, est un arrachement. C'est-à-dire, autant tout ça, c'est médiéval, il n'y a pas de problème, autant là, on a un mur qui, visiblement, je ne sais pas si vous le devinez, hein, mais fait en petites pierres, etc., là, il y a eu un problème. Est-ce que ça s'est écroulé à un moment ou à un autre et qu'on a reconstruit au 18e, 19e, un peu n'importe comment, c'est possible. Est-ce qu'il y avait ce bâtiment-là qui se poursuivait vers nous, si vous voulez, et que ça a été coupé et qu'on a rebouché en faisant ce mur? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui semble bien, c'est que cette partie-là, je ne parle pas du béton, hein, je parle de ce qu'il y a derrière, hein, que cette partie-là n'a pas du tout l'ancienneté, l'homogénéité, l'intérêt de ce que vous voyez à partir de là, qui est fait en pierre de taille et qui date du XIIe siècle. Hein. Là, on a visiblement
les dégâts,
un mur. Donc, en fait, il s'est autorisé devant ça à recréer l'entrée qui se trouvait bien là, mais qui n'existait plus. Vous voyez ce que je veux dire, hein, en plaquant ce truc sur cette structure, cette partie de structure, pardon, qui n'est pas ancienne. Ok? Je veux dire par là qu'il n'a rien démoli quand même. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même un chèque des monuments historiques. Hein.
On lui a demandé c'était peut-être pour une destination pour des jeux.
Alors, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que. Ouais. Mais c'est effectivement un peu ça, c'est-à-dire que. D'ailleurs, c'est ce qui se passe, c'est un château qui est visité. Comme un château médiéval, si vous voulez. Voilà. Et donc, on a voulu une sorte de modernisation un peu évocatrice du Moyen-Âge, sans qu'elle soit médiévale, mais qu'elle suggère. Donc, effectivement, il y a un petit peu de ça. Je pense que ça fait un peu partie de la commande.
Alors, il reste une autre partie du château ?
Oui, c'est-à-dire que là, là, vous voyez deux espèces de bouts de tour. Hein, et le château se poursuit vers nous, si vous voulez. Ça, en fait, c'est la haute cour. Et là, vous avez, vous en voyez ici un morceau, hein, une sorte de grand, de début d'une espèce de plateau qui forme la basse cour et qui est également entouré d'un rempart.
Oui, mais assez peu significative, apparemment.
Beaucoup moins bien conservé que ça, oui. Alors, des éléments, mais...
La démarche, quand un architecte reçoit le travail, il y a quand même bien un cahier des charges.
Oui. Ah oui, oui, absolument. Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Et c'est étonnant que ça ait été validé, justement.
Moi c'est un dossier que j'ai du mal à comprendre aussi, je vous dirais franchement. C'est pas d'ailleurs que je sois forcément opposé à une intervention contemporaine et qui se lise comme telle dans un monument. Là, ce que je trouve, c'est que... comment vous dire ?
Ça dénature la pyramide du Louvre.
Oui. Là, c'est vraiment... ce que je vois, c'est que c'est... comment dire, ça, à part le fait qu'on comprend que c'était bien une entrée ici, hein, je trouve que ça n'explique pas le monument tel qu'il a été. C'est pas le fait que ce soit des matériaux et autres, c'est pas forcément ça, c'est le fait que je vois pas, moi, comment cette intervention-là, qui est peut-être bien pour des raisons, on l'a dit tout à l'heure, de conservation, enfin de solidité, hein, je vois pas comment elle... Enfin, je trouve qu'elle ne permet pas de comprendre le château, en clair.
Mais non.
Oui, c'est une restauration loupée.
Bah, oui, c'est d'ailleurs même pas une restauration. Oui, abusive, c'est une partie reconstruite. Et alors, qui, je trouve, n'est pas compréhensible. Enfin,
pas très réversible, quand même.
Mais pas très réversible, quand même. Alors, là, par contre, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, ça se voit. Là, il n'y a pas de problème. On comprend. Alors, vous me direz, les siècles passés ne se sont pas gênés pour ça. Hein. Vous connaissez des quantités de bâtiments médiévaux qui ont été repris au XVIIIe siècle, par exemple. Hein, et on ne s'embarrassait pas du tout au XVIIIe siècle de faire des choses complètement différentes. Hein. Et ça se voit comme le nez au milieu de la figure.
Hein.
Donc ça, vous voyez, c'est peut-être pas un reproche premier qu'on peut faire.
Quel est le propriétaire actuel du château ?
Je crois que c'est la commune de Falaise.
Et le ministre qui avait
autorisé ? Non, je ne sais pas qui c'était à l'époque.
Je rigole pas, mais...
Je ne sais pas qui c'était. Ouais. Je ne sais pas. Les travaux ont eu lieu il y a une quinzaine d'années à peu près. Ben, vous savez, les goûts et les couleurs, hein, voilà, c'est très très compliqué ça. Hein. Enfin, moi ce que je dirais, pour ma part, hein, c'est pas spécialement le fait qu'il y ait du contemporain avec de l'ancien, non, fait, ça peut
ça,
faire.
Ça, ça,
c'est même pas le fait qu'il y ait un vocabulaire différent, parce que, après tout, je vois pas pourquoi on s'en priverait. Hein. C'est que je vois pas la logique, vous voyez. Je trouve que reprendre un monument, ça va être dans sa logique profonde, vous voyez ce que je veux dire.
C'est intellectuellement gratuit.
Voilà, c'est quelque chose, oui, je trouve que c'est assez bien comme...
Pas financièrement, oui, oui. Mais intellectuellement gratuit.
Oui, effectivement. Ouais. Oui,
par...
oui, un côté un peu pas fini. Oui, alors en plus, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que... Je trouve que... cette espèce de petite guirlande de blason, et ça, je trouve que c'est pas terrible. C'est pas terrible. Donc voilà, c'est pas... Alors, heureusement, c'est assez circonscrit, hein, vous voyez, hein, c'est là, bon, voilà. Mais c'est pas... En tout cas, c'est pas très convaincant, je crois.
Non.
Ben non, en fait. Non, non. C'est-à-dire le fils d'un peintre assez connu dans les années 50-60, de Caris, hein,
qui était graveur, un gros poste. Le graveur.
Oui, le graveur. Oui. Donc, non, c'est plutôt quelqu'un de... Voilà. D'ailleurs, qui a restauré des monuments, personne n'en a parlé. Enfin, je veux dire, personne n'en a parlé. Ça n'a pas fait de problème, quoi. Oui, 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 oui. Alors, il y a peut-être, en effet, on a dit tout à l'heure, une commande particulière, ça a peut-être eu plein de choses. Peut-être qu'il s'est dit, là, je vais faire mon œuvre. Encore une fois, quelque part, il n'a rien abîmé. Hein. Vous le voyez, encore une fois, ce mur qui est là. Hein. Ce mur qui est là, c'est pas un mur aussi ancien que ça. C'est-à-dire qu'il s'est plaqué sur quelque chose qui n'avait pas d'intérêt. Ça, on est d'accord.
Hein. Un intérêt de consolidation.
Voilà, un intérêt de consolidation, et c'est tout. Donc, vous voyez, il n'a pas mis tout un bazar par là, par exemple. Hein. OK. Cela dit, je ne sais pas si cet appendice peut permettre, en cohérence, en équilibre, en harmonie, même non plus en contraste, vous voyez, enfin, de comprendre et de je ne sais pas si ça sert le monument.
Il sera facile à enlever.
Ben, c'est quand même un peu du béton. Hein. Bon, on se dit, ça, tous, il n'y a pas de problème, ça peut s'enlever, mais enfin, c'est pas le but non plus, mais c'est vrai. Je pense, effectivement. Bon, on va peut-être passer à autre chose.
Fréjus.
Vous connaissez les arènes de Fréjus. Hein, voilà. Donc voilà les arènes de Fréjus. Les voilà dans les années 80. Les voilà aujourd'hui. Je vous montre après. Je vous montre des détails. Parce que là, de loin, c'est jamais des arêtes.
C'est des protectrices.
Alors voilà, avant. Voilà après.
Ils ont construit des trucs.
Voilà après.
D'accord. Oh, c'est étrange.
La limite.
Voilà après.
Oui, ça se voit.
Oh non, c'est moche.
Voilà un des, je me rappelle, les vomitoria, vous savez, les couloirs. Voilà.
Hein, mais c'est
après.
Mal, ça.
Non, on va en parler. Hein. Voilà avant, la reine. Voilà en cours.
C'est sûr qu'il voulait là en faire pour les spectacles et des choses
comme ça. C'est la fonction première.
Il fallait.
Mais c'est
alors, je ne sais pas, on regarde quoi, ça
les premières, on voit les trucs bleus.
C'est ça.
Ça, c'est mon chat.
Alors, oui, les trucs bleus, là, c'est tout simplement les entrées qui permettent d'entrer, quoi. Et puis après, de servir les gradins.
Oui, mais ça, on pourrait peut-être faire autre que des tuyaux.
Oui, je trouve ça.
Mais pourquoi bleu?
Alors, à votre avis, quelle a été la logique de cette restauration?
Utilisation
de fonctionnalité.
Fonctionnalité, utilisation. Il y a des arènes. Les élus de Fréjus voulaient utiliser les arènes et voulaient en faire quelque chose. Elles étaient utilisées avant, d'ailleurs. Hein. Simplement, ils voulaient optimiser l'utilisation. C'est-à-dire qu'il y ait plus de gradins pour mettre plus de monde, qu'on puisse faire plus de spectacles de manière plus facile, pratique, etc. Bien.
On voit ce qui est nouveau et ce qui est ancien.
Alors voilà, on voit ce qui est nouveau et ce qui est ancien. Alors là, le soleil n'est pas au bon endroit, si je veux dire, mais enfin, je crois que vous voyez bien, hein, tous les occurrences anciennes, les structures nouvelles, y compris ces tuyaux, qui ne sont peut-être pas ce que l'on peut préférer. Je suis d'accord avec vous.
Puis cette couleur bleue aussi, c'est le bord de la mer, d'accord, mais enfin...
Oui, ce côté bleu des tuyaux, surtout des tuyaux, parce que le reste est bleu-gris, on va dire.
Il ne reste plus rien des gradins.
Alors, dans les gradins anciens, il en restait quasi rien. C'est d'ailleurs le cas dans beaucoup d'amphithéâtres. Voilà, donc... Et alors, à votre avis, quelle a été l'idée de l'architecte des monuments historiques quand il a travaillé ça?
Parce que c'est un architecte des monuments...
Ah ben, bien sûr. Alors là, les arènes de Fréjus, enfin l'amphithéâtre de Fréjus, ça j'en suis sûr, a été classé dans la liste de 1840, de Mérimée, la première liste. Hein. Donc ça, c'est monuments historiques de chez monuments historiques. Hein. Donc c'est forcément l'architecte des monuments historiques qui a fait ça. Alors, c'est avec ton chef.
Est-ce qu'il n'y a pas l'idée d'essayer au niveau des toits de faire un peu comme si c'était les toiles qu'il y avait à l'époque romaine?
Oui,
c'est un peu ça, effectivement. Hein. L'idée est effectivement, sinon de retrouver absolument, parce que la partie supérieure de l'amphithéâtre était de toute façon dégradée, même quasiment détruite, hein. Mais effectivement, l'idée de retrouver l'idée. Parce que, voilà, du vélum. C'est-à-dire, vous savez que dans l'Antiquité, vous avez raison de le rappeler, hein, surtout quand il faisait chaud, etc., tout ça n'était pas assez ouvert. On entendait des vélums. Alors, des vélums qui n'étaient pas forcément des vélums qui recouvraient le tout, hein, mais qui recouvraient les gradins, hein, qui permettaient, quand on était sur gradin, de ne pas griller sur place. Quoi, hein, voilà. Donc, il y a effectivement l'idée, avec ces choses-là, hein, de retrouver cette atmosphère, on va dire. Hein. Donc ça, c'est une première idée. Hein. Retrouver, par exemple, au niveau du haut des murs, retrouver l'idée, l'atmosphère, la volumétrie, pourrait-on dire, des arènes, plutôt de l'amphithéâtre, tel qu'il existait. Quelles ont pu être les autres idées directrices de l'architecte? Pardon.
Un respect du temps et du temps passé et du travail de l'époque qui permet quand même de voir comment...
Oui, et ce respect-là, vous le voyez dans quoi, par exemple? On peut voir d'autres vues, par exemple, parce que là, on voit une vue d'ensemble. Hein. Mais si on regarde ça ou ça...
Non, ça va mieux vu du bas.
Voilà
la différence. Voilà. C'est ça. Là, effectivement, on voit la différence, on voit ce qui est ancien, on voit ce qui n'est pas. Hein. Je crois que c'est le côté visible. Alors là, il est clair.
Et le côté moderne respecte un peu l'ancien.
Alors oui, c'est-à-dire un petit peu ce que déjà vous disiez tout à l'heure, tout à fait. C'est-à-dire que ce que l'on a réalisé, je crois que ça se voit bien ici, hein, c'est effectivement des baies qui reprennent l'idée des baies qui semblent exister antérieurement. Hein. Donc effectivement, il y a l'idée de recréer schématiquement hein, le volume à peu près tel qu'il était. Quelle autre idée encore, à votre avis ?
Que ce lieu vive, qui serve.
Alors, ça, c'est important aussi. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure pour le fameux château. Hein. L'idée de lui prévoir un avenir, que pas simplement un tas de pierres charmants, utilisées quand même avant, hein, mais qu'il sert de manière un peu plus, on va dire, forte. Enfin. Et sécurisée aussi. Alors, il y a des choses, à mon avis, je ne suis pas sûr que l'escalier, ce cours-là, ait existé dans l'Antiquité. Hein, voilà. Il y a des normes maintenant.
Il y a des normes
maintenant.
Il y a
des normes. Or, quoique dans les amphithéâtres, il y avait beaucoup, beaucoup d'escaliers d'entrée et de sortie. Mais bon, là, visiblement, c'est vrai que les normes ont changé depuis en 2000 ans. Hein. Ouais.
C'est peut-être pas très esthétique, mais c'est très intellectuel, je trouve.
Oh oui.
Esthétique, monsieur.
Oh, comme ça.
C'est bien plus esthétique que ce qu'on a vu, là, les bleus avec les tuyaux.
Oui, mais ça, c'est pas fini.
Oui, alors, les trucs bleus, effectivement, moi, je trouve que c'est un peu la fausse. C'est la fausse note. J'y suis pas allé, j'ai pas vu, donc j'ai pas d'avis. Après tout, on s'en fiche, je m'en ai. Mais je suis d'accord avec vous, je trouve que. Pardon. Je trouve que effectivement les tuyaux, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux.
C'est,
quoi,
ça. Bah non,
c'est la fausse note, je trouve. Oui, c'est un peu de tocard et puis ce bleuasse, c'est pas très intéressant.
Un peu con.
Oui, je peux dire ça. Ouais.
Oui, mais on le voit rarement sous cet angle-là, probablement.
Oui, peut-être. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je suis pas sûr que du bas ce soit tellement mieux. Je sais pas si j'ai une vue. Mais ça, évidemment, c'est pas... Bon, ça a l'intérêt aussi, vous l'avez suggéré, ça a quand même un intérêt de garder et de protéger les éléments antiques. Hein, oui. Parce que une architecture comme ça, en extérieur, ça s'abîme vraiment beaucoup.
Il y a quand même des plantes sur les
anciens. Ah bah oui, oui, oui.
Donc ils n'ont pas tout le...
Bah, ils ont laissé l'empreinte et la patine. Ouais. D'ailleurs, vous avez... Alors là, c'est pareil, mais bon, là... Même combat, si j'ose dire. Et ça, qu'est-ce que ça vous suggère ?
Ça, c'est réussi.
Oui, moi, je trouve ça assez réussi aussi. Ben, je trouve qu'on voit les restaurations, notamment à droite. Hein. Vous voyez à quel point c'est visible. Hein. Ça, c'est du béton. On a enlevé le bois, quoi, qui est très visible. Donc, c'est assez brut, mais...
L'éclairage est bien fait.
Ben, oui. On a couvert, donc, ce vomitorium... qui quand même était assez ouvert visiblement avant, hein, puisque vous voyez que là, il y a plus... la voûte s'est écroulée quand même. Hein. Donc il y a ça qui protège.
En bois,
non, je pense que c'est en métal.
En métal.
Ouais, ouais. Voilà. Donc, évidemment, c'est quelque chose d'assez drastique, cette restauration. Je crois qu'il faudrait aller voir. Moi, je n'ai pas vu. Hein, donc je suis d'accord avec vous. Par exemple, par rapport à l'exemple précédent, je trouve qu'on voit absolument que c'est Condorin, c'est un vocabulaire Condorin, c'est tout ce qu'on veut, mais il y a une sorte de logique. Enfin, alors, c'est à la fois intellectuel et en même temps voilà, très visible. Enfin, je trouve que c'est une chose évidemment assez défendable.
Acceptable.
Est-ce qu'on peut vraiment parler de restauration ? Moi, je trouve que c'est plus une transformation, parce qu'on on a laissé en état les qui vont avec le temps se dégrader. À quoi ça sert, enfin ?
Alors,
on va restaurer le monument d'Orange,
quand même.
Vous avez raison, c'est une vraie question, ça.
On l'a consolidé, mais on n'a pas resté. Enfin,
ouais. Alors, je pense quand même, je suppose, hein, qu'on va bien être obligé, dans le temps, de, en permanence... travailler sur la structure antique conservée, parce que je vois pas ça rester... C'est très joli comme ça. Moi, j'aime par exemple beaucoup ces plantes qui sont là. Hein. Mais je pense que si on les laisse, on va avoir quelques problèmes très vite, vous voyez.
Il y aura encore des infiltrations.
Voilà, il y aura des infiltrations, il y aura des problèmes. Donc, je pense qu'on a un peu intérêt quand même à une sorte de régulation permanente. Hein. Mais c'est vrai que le parti pris qui a été trouvé, je trouve assez équilibré quand même, hein. C'est de garder une sorte de patine... tout en protégeant au maximum. Mais effectivement, on n'a pas nettoyé tous les parements anciens, on n'a pas, visiblement, hein, repris les enduits ou le jointoiement partout. Oui, je pense, encore une fois, malgré tout, que c'est forcément des choses qui devront se faire au fur et à mesure. Enfin, je ne vois pas comment... Voilà,
ça devait être quand même très difficile à imaginer.
Oui, oui, oui. Oui, oui, ben oui. Ah oui.
C'est acceptable.
Oui, je trouve.
Est-ce que dans le programme de restauration, l'entretien est prévu? Parce que c'est le problème de tous les monuments anciens ou modernes.
Absolument.
Qui sont très entretenus.
Je suis très d'accord avec vous. C'est-à-dire que très souvent, on fait des restaurations. Alors, on sue sang et eau et on dépense beaucoup d'argent, puis après, fini. Ça, c'est, en France, on est très doué pour ça, d'ailleurs. Et c'est très dommage. Et je trouve que c'est très important, ça. Il y a le côté après. Oui. Il y a une espèce d'entretien permanent qui doit être intégré. D'ailleurs, on l'a dit pour les objets, ça. Hein, qu'on se restaurait très bien, mais qu'il fallait voir après dans quelle vitrine on mettait, dans quelle réserve. On ne l'a pas forcément dit, mais il y a des questions de climat qui se posent pour les objets. Aussi, par exemple, les dessins, si vous voulez, ça on va en parler pour les dessins, si vous les rangez, parce que les dessins, on a vu qu'il ne fallait pas les exposer en permanence, il y a de la lumière, etc. Mais si on les range dans des cartons qui ne sont pas neutres, vous allez bousiller vos dessins, fussent-ils restaurés, vous voyez ce que je veux dire. Donc, vous avez raison, pour les monuments, il faudrait avoir la même démarche, on ne l'a pas toujours, on l'a parfois. Ça dépend beaucoup des propriétaires, ça.
Mais c'est pas prestigieux d'entretenir.
Bah, disons que c'est.
C'est cher et c'est pas prestigieux.
Je crois qu'il y a aussi que, comment vous dire, on fait un gros effort pour la restauration, ça prend du temps, ça prend de l'argent, ça prend de l'énergie, c'est fait. Ça y est, on est tranquille. Alors après, on vit un peu sur ses lauriers. Mais vous avez très raison, je trouve. La culture de cet entretien qui ne fait pas de bruit, qui n'est pas prestigieux, parce que c'est mieux de faire un grand bazar pour restaurer tout, plutôt que de faire une petite relation d'entretien, ben, c'est pas tout à fait dans la culture du suivi des monuments. Je suis d'accord avec vous. Et je trouve que c'est vraiment une voie de progrès, notamment en France. Je suis vraiment d'accord avec ça. Parce que ça, à mon avis, si on arrive à maintenir ça comme ça, c'est bien, mais ça demande un suivi un peu costaud. Quoi. C'est-à-dire tous les ans, travailler à reprendre une chose, à garder ce qui est un assez bel équilibre, effectivement. Ça va. On passe à l'exemple suivant. On est où, là?
À Versailles.
On était à Versailles. On était à Versailles il y a 15 ans, à peu près. Ça, tout le monde connaît, il n'y a pas de problème. Hein. La cour de Versailles, le Grand Canal, etc. Effectivement. Voilà Versailles maintenant. Vous voyez la différence, hein? Avant, après. Voilà. Donc, effectivement, on a construit...
Il y a une autre grille.
Oui. On a construit ça. Hein. Je vous remonte les deux diapos, le reste n'a pas changé. Hein. C'est bien Versailles. Voilà. Et voilà.
Et pourquoi ?
Alors, à la place de la grille, il y avait effectivement là la statue d'Henri IV. Hein. Une statue qui date de quand d'ailleurs ? C'est une statue qui date du 19e siècle, hein, qui avait été placée à l'époque de Louis-Philippe, au moment où Louis-Philippe a fait à Versailles le château de l'histoire de France. Hein, et donc, on a mis là cette statue, voilà, qui était très, très dans le programme de Louis-Philippe. Effectivement, cette statue a donc été déplacée, elle est maintenant devant le château, par ici.
Mais la grille rajoutée existait ou pas ?
Alors, ça fait effectivement l'objet de beaucoup de discussions, et là aussi de polémiques. La grille, a priori, existait. Je vous montre ici une vue du château en 1722. En fait, on sait maintenant que cette grille... Il y a eu d'ailleurs des fouilles archéologiques qui ont été faites. On a retrouvé l'emplacement où elle était, etc. Où se trouvaient les deux petits bâtiments que vous voyez ici et là, avec des statues par-dessus. Donc cette grille existait. Elle a été, je crois, construite en 1678. Je crois qu'elle a été terminée, en tout cas en 1678. Et elle a existé jusqu'au milieu du règne de Louis XV, dans les années 50, je crois. Et là, on l'a démontée. Et à vrai dire, on allait faire quelque chose, ça a traîné, jusqu'à la Révolution. D'ailleurs, vous savez, si j'ai lu quelque part que si à la Révolution, les révolutionnaires, on peut pénétrer jusqu'à la cour carrée, enfin, pardon, la cour de marbre, la cour carrée, c'est tout, la cour de marbre qui est là, c'est justement parce que là, il y avait une balustrade en bois qui traînait depuis la fin du règne de Louis XV, avec la destruction de cette grille, et que les révolutionnaires ont pu, après avoir pénétré par cette première grille, très facilement rentrer là-bas. Parce qu'il n'y avait qu'une palissade en bois, et pouf, ils ont abouti ça, ils sont rentrés. C'est le moment où le roi, la reine apparaissent au balcon, etc. Donc, vous voyez, on avait des documents qui permettait d'avoir une idée de la grille. Je tiens à préciser d'ailleurs que les deux groupes sculptés que vous avez ici et là, hein, quand à l'époque de Louis XV, on a défait la grille, démonté la grille, on les a gardés, on en a mis un là et un là. Ce qui fait qu'il y a quelques années, bah, on a enlevé les groupes qui étaient là et là pour les remettre à leur place.
Donc on a remis...
Voilà, alors voilà avant, voilà après. Et voilà un détail. Alors, ça a quand même fait polémique. Pourquoi ?
Il y a peut-être une question de perspective qui était un peu rompue par le fait qu'il y ait une barrière.
Certains ont un peu dit ça, qu'il y avait une grande perspective qui s'ouvrait et que la grille rompait, finalement, c'est lancé jusqu'à la cour de marbre.
Une grille, c'est pas un mur. Hein.
Une grille, c'est pas un mur. Pardon ?
Si c'était au départ.
C'était, en tout cas, ça a été là à un moment. Hein, effectivement, entre les années 70 du XVIIe siècle jusqu'au milieu du XVIIIe, pendant pas un siècle, mais pas loin.
Mais c'est tout ce que Louis XV voulait faire.
Pardon ?
Est-ce qu'on sait ce que Louis XV voulait faire ?
Alors, je l'ai lu, c'est oublié. Il y a eu une idée, mais qui n'a jamais abouti. Donc, j'allais dire, c'est un peu un projet qui a foiré, quoi. On a commencé quelque chose. Visiblement, le roi n'était pas très sûr. C'était la fin de sa vie. On a commencé, on n'a pas fini. C'est resté en chantier. Puis à l'époque de Louis XVI, il y avait d'autres chats bruités, quoi.
Oui, mais Henri IV tout seul était un peu bizarre.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi, je trouve qu'ils ont bien fait. C'était pas indispensable. Après tout, on revient comme à l'origine.
Alors, on revient quand même. Effectivement, alors, je crois que je résume assez bien en disant c'est bien, peut-être pas indispensable, ça coûtait très cher. Hein.
Bon. Oui.
Voilà, il faut savoir ça aussi. Hein. Ça coûtait très très cher. Peut-être pas indispensable, mais bon, on l'a fait. Par parenthèse, ça avait un intérêt, nous dit-on, on le voit là. Par rapport au flux de visiteurs.
Oui.
Ça permettait, si vous voulez, pendant la visite, que les gens qui ont en gros payé leur billet, qui sont dans le château, aillent dans la cour de marbre, et les autres, non, quoi. Voilà. Donc ça a aussi cet intérêt-là. Alors, il y a une critique qui a été faite aussi, je vous le dis, parce que ça, c'est pas... C'est que les dessins qu'on a, les dessins anciens, vus en scène, qu'on a de la grille... je vous en ai montré une tout à l'heure des peintures. Hein. Il y en a une ou deux autres, mais c'est toujours vu de loin, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on n'a pas dans le détail une idée précise de tous les éléments qui composaient. On a une idée assez bonne de son emplacement, de sa silhouette générale, mais le détail des ornements, ça, non. Hein. Voilà. Donc c'est aussi une des critiques qui a été faite. De dire, on a reçu les éléments, mais on n'est pas sûr dans le détail que c'est jamais été comme ça. Oui.
Il y a un côté aussi, je ne sais pas bien comment l'exprimer, mais l'esthétique de Versailles, avec les dorures, avec, on le voit d'emblée, alors que quand la cour était nue...
Je trouve aussi. Oui, je suis d'accord avec vous. Oui. Quand c'était effectivement comme ça... Et puis, peut-être on peut penser aussi que cette espèce de perspective qui est intéressante en même temps, mais qui n'en finissait pas, ne rendait pas trop hommage au site, je trouve aussi, peut-être. Mm-hmm. C'est-à-dire, c'est fou, un grand bazar. Mm-hmm. Avec ces statues, on a l'impression d'être au milieu d'une place. Voilà. Et quelque part, les séquençages. Hein,
oui.
Le fait qu'ils faisaient, c'est comme un théâtre. Il y a une grille, une deuxième grille, un cours de marbre. Bon, là, pouf, on a une grande esplanade. Quoi. Il n'y a plus qu'à garer les bagnoles et puis c'est réglé. Quoi. Vous voyez, il y a un côté... voilà. Alors, ce qu'on a pu, par contre, et la statue, là, le disque, ce qui a pu être évoqué, c'est quoi d'autre encore, Travia, à propos de ça ? Et que la statue qui est au centre...
Alors, on enlève une partie de l'histoire.
Voilà. C'est-à-dire que le château a été sauvé au XIXe siècle parce qu'on a fait de ça le musée d'histoire de France. Et cette statue était là, justement, pour témoigner de ça. Hein. C'est-à-dire que Louis XIV, grand roi s'il en est, réconciliateur de la patrie, on pourrait dire. Hein.
Il en témoigne encore, c'est
oui,
à l'extérieur.
Voilà. Visible. Voilà. Voilà. Donc, mais ça a été très, très, très virulent. Hein. Très, très virulent.
C'est un peu perdu. Ah,
on est en République. Tout le monde s'exprime. Voilà, donc vous voyez, un autre mais qui pose plein de problèmes financiers, d'ergonomie du lieu, de réalité historique, archéologique, vous voyez, plein de choses se posent. Très roisselet. On est encore 5.
Ah oui, la coloration après.
Voilà une vue de Palmonial, la basilique, il y a une trentaine d'années. Hein. Voilà, vous la reconnaissez. Et voilà une vue équivalente à la croisée du transept, hein, mais prise de l'autre côté aujourd'hui.
Voilà. Ah oui, mais ça donne pas. C'est... Quand on est là, ça donne pas ça. Hein,
je peux vous montrer
l'intérieur.
Alors voilà le déambulatoire. Voilà le déambulatoire. Là, en gros, la même chose.
Mais quand on est à l'intérieur, ça donne un jaune pénible.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez
actuellement?
Ça, c'est bien.
Non, on peut peut-être le nettoyer un petit peu.
Voilà, le nettoyer, mais de la faire blanc comme ça.
Oh, c'est jaune.
C'est oui,
jaune.
C'est plus jaune que blanc. Ouais.
Oh oui, mais moi j'ai un.
Alors, les vues ne sont pas très justes en termes de lumière et de couleur.
Hein. Non, non.
Alors, à votre avis, qu'est-ce qui a présidé à ça?
Retrouver les peintures.
Pardon?
C'est de retrouver les peintures qu'on pensait être dans la cathédrale quand elle a été construite.
Oui, parce que ça, qu'est-ce que ça pose comme problème, ça?
Alors, est-ce qu'il y a eu un enduit à un certain temps? Ou si on a décapé ça déjà?
À votre avis?
Et quand?
Voilà, c'est-à-dire qu'il y avait autrefois un enduit. Hein. C'est-à-dire que ce que vous avez là est une vision qui n'est pas juste, si vous voulez. C'est-à-dire que la pierre... Alors, il pouvait y avoir des pierres relativement pierres de taille, hein, d'autres beaucoup plus des petits appareils, mais tout ça était soit enduit et peint, soit directement peint. Hein. Quelquefois, quand vous avez des colonnes, elles étaient peintes directement. Hein. On n'avait pas à mettre un enduit sur la colonne. Bon, pas là, en tout cas. Les pierres de taille pouvaient être peintes directement. Mais tout ce petit appareil-là était couvert d'un enduit qui était peint. Hein. Donc, effectivement, qu'est-ce que ça pose comme problème?
La conservation.
Oui, on est à l'intérieur. Ça va à peu près.
C'est pas conforme.
Alors, c'est pas conforme, c'est moins lumineux.
Est-ce que c'était nécessaire de réenduire?
Qu'est-ce que vous en pensez?
Si on veut retrouver le...
D'autant que les peintures à l'intérieur, c'était souvent c'était édifiant, il y avait des textes, enfin, des textes...
Oui, alors, ça dépend, parce qu'on trouvait de tout. Il y avait des églises qui étaient... Alors, enduites toujours, ça, l'enduit, c'était systématique, hein, avec, une première peinture. Alors après, soit d'emblée, on avait des programmes de peinture qui couvraient les murs, soit on faisait des peintures au fur et à mesure. Vous décidiez, vous, par exemple, d'offrir une peinture à l'église, vous avez fait sur un mur une peinture de 4 mètres sur 3, hein, qui représentait l'Assomption de la Vierge, par exemple. Hein. Voilà. Donc il y avait soit des programmes, vous voyez, soit des dons qui étaient faits, puis on faisait peindre une chose ou une autre. Hein, voilà.
Oui, ça servait aussi d'éducation religieuse.
En quelque sorte, voilà. Ça servait aussi, ces peintures que l'on faisait faire, servaient aussi quelquefois d'abord gagner son paradis pour celui qui la commandait, hein, et puis aussi à ce qu'on parle de vous. C'est-à-dire que vous offrez une peinture à une église, vous faites représenter en donateur, enfin en donatrice, hein, et quand les pèlerins vont à l'église, ils vont dire, oh, bah tiens, Madame Truc, là, c'est chouette, voilà. Hein.
Merci, madame.
Voilà. Hein, c'est pas, c'est bien. Voilà. Et alors, oui, si on continue, quel problème ça? Vous disiez le problème qu'une chose comme ça pose, c'est que, c'était pas comme ça, quoi, décidément. Hein. C'était enduit. Bon. Et justement, quelle est la différence de ressenti entre ça et ça?
La lumière.
Alors, la lumière, ça, c'est un effet, c'est vrai.
Oui,
alors, même si la photo que j'ai montrée avant est sombre et peut-être plus sombre que ce qu'elle était à l'origine, et ça est peut-être un peu différent aussi de ce que c'est en vrai. Bon.
Oui.
Mais enfin, c'est beaucoup plus lumineux aujourd'hui qu'avant. Ça, c'est indiscutable. Hein. On y est allé il n'y a pas longtemps d'ailleurs. On a pu voir ça. Hein. Voilà. C'est vrai, c'est pas faux, c'est pas faux. Mais on peut se demander si. Ben voilà, voilà, c'est voilà, hein, c'est un, ça fait un peu partie du truc. Mais vous n'avez pas tort. Hein. Quelle est aussi, je crois, la grande différence entre ça, c'est-à-dire ça couvert d'un enduit et peint, hein, et ce qu'on a vu précédemment, au-delà de la luminosité, plus grande dans un cas, moins grande dans l'autre.
Ça fait trop moderne, le reste.
Pardon ?
Ça pourrait faire contemporain, le reste. Alors que
là, ça ou l'autre ?
Non, l'autre.
Mais est-ce que ce ne serait pas l'inverse ? Parce que ça, au Moyen-Âge, il n'en est pas du tout question.
Ben oui.
Au Moyen-Âge, ça, on trouve ça moderne. Ouais. L'idée du décapage est moderne.
Il est récent, oui.
Voilà. Alors que l'idée de l'enduit est ancienne. En fait, ça, c'est plus ancien, si j'ose dire. Même si c'est plus moderne, vous comprenez ce que je veux dire. Ça, le voilà, c'est même si c'est neuf, voilà. En fait, en gros, quand on a plus ou moins, hein, quand on a construit Paray au XIIe siècle, quand c'était tout beau, tout propre, c'était pas loin d'être ça, sans doute.
Oui, mais Paray a été construite un peu à l'imitation de Cluny, oui. En réduction.
Oui, oui,
est-ce
oui.
que dans les résidus de Cluny qu'on trouve parfois, est-ce qu'il y avait un enduit très coloré?
La nature de... Alors, je sais que pour Paray, il y a eu un certain nombre de travaux qui ont été faits. Le problème est que Paray avait été entièrement décapé dans les années 60. En gros, tous les enduits anciens, toutes les peintures qui existaient sous les enduits, tout a été détruit. Dans les années 60. On a tout foutu.
Oui, c'était l'époque où on aimait le brut.
On aimait le brut.
Le soi-disant antique.
Voilà. Et donc, on a tout éliminé. Alors, je crois qu'il y a quand même quelques rares lieux dans Paray... On a réussi à retrouver des éléments, en particulier sur les pierres qui étaient directement peintes. Mmh. Par exemple, vous voyez les colonnes ou les pierres qui forment les arcs à l'entrée des chapelles, ou rayonnantes par exemple. Là, on trouvait par endroits des petits restes de peinture, si vous voulez. Hein. Par exemple, le jaune, qui est celui des colonnes ou des moulures, je crois, parce que j'en ai un peu discuté avec l'architecte, et si je me souviens de ce qu'il avait dit, c'est pas un jaune inventé, c'était le jaune...
Initial.
Voilà, en tout cas proche, parce qu'évidemment, après... Bon, voilà.
Il n'y avait pas de photos, parce qu'en 60...
Pas de bonnes, quoi. Vous savez, c'est les photos des années 60, ou vous savez, un peu comme on a vu tout à l'heure, les cartes postales, qui ne sont pas toujours très formidables. Quoi. Ouais. Et puis, on devrait... Et puis, en plus, le problème, c'est que, pareil, dans les années 60, avant que les travaux soient faits pour qu'on élimine les enduits... justement, il y avait les enduits sur les peintures, donc on ne voyait pas du tout ce qui restait des peintures originales. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc on a tout foutu en l'air, et à cette époque-là, de toute façon, on détestait l'idée qu'il puisse y avoir des enduits à l'intérieur des bâtiments, on éliminait le bébé et l'eau du bain, si j'ose dire. Donc les enduits et les peintures qui étaient en dessous. Puis je crois qu'il y a quand même un élément assez fondamental entre ça et ça, enfin entre ça et ce que je vous ai montré précédemment. C'est que, vous voyez, une vue comme ça. Finalement, comment vous dire, fait un peu mal voir ce que c'est que l'art roman. C'est-à-dire que quand vous regardez ça, alors qu'il y a un espèce de charme un peu, comment vous dire, obscur, hein, en même temps, le problème, c'est que, comment dire, bien que la pierre, dans ce qu'elle a d'unique, pierre par pierre, l'emporte un peu, dans son unicité de chaque pierre, sur l'idée générale qui est celle du volume. Vous voyez ce que je veux dire ?
Mais quand c'est décapé, en fait, on revoit très bien, après, on voit bien sur les bâtiments qu'on décape, comment on aperçoit toutes les ombres, tous les... moi, je trouve que c'est spectaculaire quand on voit une façade qui a été décapée, on aperçoit tous les détails qu'on ne voyait pas du tout quand elle était
enduite.
Sombre.
Oui.
Donc, décapé, ça aurait été peut-être pas mal.
Décapé, ça aurait été la même chose, sauf qu'on aurait vu encore plus les pierres, si vous voulez. Mmh. Et l'époque romane a aussi pour but de proposer des volumétries. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'une église romane, c'est aussi des volumes, plus que des pierres, qui d'ailleurs n'étaient pas faites pour être visibles, hein, et que l'on voit. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ces murs mis à nu, où on a enlevé les enduits, font quand on les voit souvent, on voit plus des petites pierres rustiques, si j'ose dire, hein, que la volumétrie globale, que le projet architectural. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un côté, moi, je dis souvent, il y a un côté crêperie bretonne, quoi. Vous voyez, on met les pierres apparentes parce que ça fait rustique et que ça fait vendre de la crème. Hein. Vous voyez ce que je veux dire, un côté, espèce de rusticité qui est en fait pas du tout celle qui était servie. Ce qu'on voulait, c'est non pas d'être dans une rusticité un peu pauvrette, hein, c'était au contraire faire du chic. On est dans la maison de Dieu. Hein. Donc, ces pierres apparentes, c'est pas digne, quoi. Hein. Il fallait quelque chose de plus, de plus cohérent, de plus beau, un enduit, si possible peint, qui vraiment flatte, si vous voulez.
Mais alors, dans les églises romanes, type Fontenay, où c'est très, très minimaliste,
oui.
Il y avait aussi un enduit.
Ah oui, oui, oui. Alors, encore une fois, hein, un enduit, là où c'est nécessaire, quand vous avez des pierres de taille, hein, c'est pas utile. Parce que vos pierres de taille sont belles, se joignent bien. Alors, généralement, vous avez un lait de chaud, par exemple, que vous passez là-dessus. Hein. Mais par contre, vous avez des pierres comme ça, des pierres qui sont non pas des pierres d'appareil, mais des moellons, là, vous les enduisez. Voilà.
Parce que dans le transept de Cluny qui subsiste...
Ouais.
J'ai l'impression que c'était un bel appareil et qu'il n'y avait pas besoin de...
Il y a des enduits. Il y a encore des enduits anciens. Ouais. Mais on a laissé tel quel, si vous voulez, aussi certaines parties pour montrer un peu le côté squelettique, entre guillemets, des restes. Voilà, ça aussi, c'est une restauration qui a fait beaucoup parler d'elle. Voilà. Parce que c'est vrai que l'habitude était prise au XXe siècle, tout décapé, tout décapé, tout décapé, tout décapé. D'ailleurs, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Hein. On a à cette époque-là, dans les villes, tout décapé, on a tout mis à nu. Et dans les églises aussi, on a énormément détruit de peintures anciennes. Énormément. Et de peintures du XIXe. Hein. Parce qu'il y avait aussi beaucoup de peintures murales du XIXe siècle qui étaient dans les églises et qu'on a virées par la même occasion. Hein. Et tout ce qu'il y avait dessous aussi. En gros, l'archéologie des églises souvent était très mal menée. Voilà. Pour trouver une espèce de, encore une fois, de rusticité de base qui n'est pas du tout l'idée première. Voilà. Donc, ça, c'est l'idée de Paris moderne. Et puis, alors, je voulais comme dernier. Maintenant, je fais attention. Hein, je voulais vous, c'est un peu curieux, mais je voulais vous proposer comme dernier exemple, un exemple que je connais bien, enfin que nous connaissons bien, parce que.
C'est chez
vous ? Ben oui. Voilà. Ça, vous connaissez. Enfin.
Avec des livres.
Voilà. Alors, je vous explique. Après, ça va vous parler. Donc, beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Hein. Ce que je vais vous montrer concerne cette partie-là. Vous savez qu'au Moyen-Âge, ça s'était construit. Le toit que vous voyez là allait jusque-là. D'accord ? Tout ça était bâti et couvert exactement comme ça. Cette façade, vous voyez, se poursuivait tranquillement jusque-là, autrement dit. D'accord ? Tout comme d'ailleurs, ça s'était construit aussi. Hein ? Le château était complètement fermé. D'accord ? Hein ? Voilà aujourd'hui l'arrière hein, du bâtiment que vous avez vu de l'autre côté, d'accord ? Et là, vous reconnaissez le vide qu'il y a entre le bâtiment lui-même et ce qu'on appelle l'aile nord avec les tours. D'accord ? Vous repérez ?
Oui.
Voilà, du côté des tours, le secteur que je vous montrais, qui est celui de la chapelle, enfin même des chapelles. Vous savez que là, il y a une chapelle en bas, une chapelle en haut. Il y a deux chapelles superposées. Hein. Une chapelle du XIIIe en bas, avec une chapelle du XIVe au-dessus, qui est la chapelle de la duchesse de Bourgogne, d'ailleurs. Bien. Voilà dans quel état c'était il y a maintenant une vingtaine d'années, à peu près. Et aujourd'hui, c'est comme vous le voyez à droite. Hein. Donc voilà le avant à gauche, le après à droite. Voilà une autre vue, hein, d'un peu plus loin. Hein. Voilà le avant à gauche, le après à droite. On va revenir, hein, mais je finis de vous expliquer. Ça, c'est un dessin qui a été fait avant qu'il y ait la coupure entre le château lui-même et les chapelles. Vous suivez toujours ? Parce qu'il y a eu un gros problème au XIXe siècle. Le problème, c'est que là, un incendie a détruit tout ça et tout ça. Hein. L'incendie que vous voyez là, d'ailleurs. Voilà l'incendie, hein, qui, au XIXe siècle, a donc touché cette partie-là. Hein. et qui a coupé le château en deux. Voilà. Et donc, coupant, encore une fois, c'est elle en deux. Voilà, ça, c'est le plan du château à l'origine. OK ? Et vous reconnaissez... Voilà, l'entrée est là, donc le logis. Hein. L'incendie a eu lieu là, ce qui fait qu'en détruisant ça, les chapelles se sont trouvées coupées du reste du château. Ce qu'elles n'étaient pas autrefois. Hein. Voilà. Et là, vous avez le plan maintenant. Hein. C'est-à-dire que vous avez décidément là, bah, le trou hein, entre le corps de logis et les chapelles, mais tout ça était plein. Voilà la vue aérienne hein, qui montre ce trou-là, mais qui n'existait pas, et qui vous montre la chapelle haute, avant la restauration, c'est-à-dire à ciel ouvert. Alors, je ne sais pas quelle est la vue que j'ai après. Voilà. Donc, voilà la restauration qui a été faite, qui consiste en quoi, en fait ?
Protéger.
Et qu'est-ce que l'on a fait ? Enfin, qu'est-ce que l'architecte a fait ? Oui, est-ce que c'est vraiment toi qui est le... Pardon ? Oui, une sorte de voûte. Ouais. Et pourquoi une voûte protectrice ?
Pour les murs.
Oui. Est-ce qu'il n'y avait, avait pas d'autres solutions, après tout ?
Refaire le toit.
Refaire le toit. Pardon ?
Il fallait faire de la maçonnerie à tout moment-là.
Oui. Et à quel endroit il fallait faire de la maçonnerie ?
Monter les murs.
Oui. Remonter ce mur-là pour aller au niveau de ça. Et bien alors, le toit, finalement, puisque vous vous rappelez, hein, je reviens une seconde en arrière, voilà, puisque ce qui manque, c'est tout ça. Hein. Donc il aurait fallu reconstruire ce bout de toit-là.
Impossible.
Alors voilà, ça c'était le gros problème. Voilà. Le gros problème était effectivement d'arriver, vous voyez, à reconstruire un bout de... Enfin, de rebâtir, quoi, et de reconstruire un bout de toit qui était en plus le... Je trouve plus le mot. Oui, la partie...
La porte qui correspond, oui.
Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Bon, la partie en biais, quoi, mais un mot, je trouve. Voilà. Donc, effectivement, vous avez raison, ce qui a été décidé... c'est de faire ça, mais pas que.
Ah ben, le toit sur le...
Voilà.
Le
toit hein sur la tour. Alors, on a restitué le toit sur la tourelle, le cœur de la chapelle. Et pourquoi est-ce qu'on s'autorisait à le faire, ça ? Voilà. On avait plus que... Enfin, différentes photos, on avait le dessin que je vous ai montré tout à l'heure, qui a été fait avant l'incendie, hein, qui montrait bien à quoi ressemblait le toit antérieur. Hein. Mais alors, pourquoi on a... Pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? On aurait pu faire un plafond plat, enfin, je sais pas quoi.
Techniquement, c'est
pardon.
Pour restituer le volume.
Voilà. En fait, c'est pour restituer le volume, parce que au XIVe siècle, la chapelle était voûtée. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc en fait, l'architecte a simplement hein, redessiné le volume de la voûte qui existait. Voilà. Tout simplement. À votre avis, enfin. C'est pas simplement parce qu'on a quelques liens l'un et l'autre avec ce lieu, mais on estime, vous voyez que c'est une restauration, c'est pas nous, au moins c'est l'architecte, hein, qui est assez réussi, mais quels sont, à votre avis, les arguments qu'ils peuvent faire, qu'on peut trouver que c'est pas trop mal, quoi.
Ça respecte
oui.
Le respect de ce qu'il y avait avant.
Oui, ben, on redessine effectivement un volume qui a existé.
Et ça adoucit.
Oui.
Je trouve qu'il y a
ouais.
Une belle ligne là. Encore carré, je ne sais pas.
Ouais. Esthétique. Oui. Oui, je trouve aussi qu'esthétiquement, c'est très très simple et que c'est très beau. C'est très, très léger, ouais.
C'est aéré parce que c'est
oui.
Enfermé.
Oui, alors, ça dit, il va falloir sans doute, pour des tas de raisons, fermer. Mais ça dit, fermer tout en laissant ouvert parce que. Il y avait là au Moyen-Âge une grande baie.
Donc avec une vitre.
Voilà. Donc l'idée va être sans doute de fermer, mais de garder, enfin de restituer en fait la baie. Sachant qu'il y a la même chose de l'autre côté en plus grand encore. C'est-à-dire que ce côté assez ouvert devrait assez rester même une fois les deux côtés fermés.
Parce que les vents d'ouest, par exemple, avec la pluie, c'est pas gênant.
Voilà. Ben, c'est ça le problème. C'est-à-dire que là, on est du côté est, mais du côté ouest, l'autre côté. Tout rentre dans la chapelle. Quoi. Alors, on a mis une protection temporaire, mais c'est vraiment un problème, ça.
Entretien, la restauration.
Ben voilà. Alors, voilà. Et alors, le suivi se fait, mais alors, c'est compliqué, quoi. Ça ne nous aide pas, quoi. Et puis, il y a les pigeons. Ça, c'est un gros problème aussi. On aime bien les pigeons, mais enfin...
Mais les pigeons, j'ai vu dans certains... à Paris... des espèces de clous.
Oui, tout à fait.
C'est pas jouable.
Si, le problème, c'est que c'est ces petits clous en question qui évitent aux pigeons de se poser. Hein. Si vous voulez, c'est de loin, ça se voit pas trop. De près, ça se voit un petit peu plus. C'est un peu moins joli, on va dire. Hein. Ça n'empêcherait pas non plus les pigeons de venir quand même, ne serait-ce que dans la pièce elle-même ouverte. Vous voyez, ce que j'ai ouvert au cas devant, quoi. Donc, et si on met des clous par terre, ben, les gens qui ne sont pas tous des fakirs vont avoir des problèmes. Mais bon, il y a un autre intérêt, à mon avis, c'est lequel ? Ah, voilà, c'est que c'est... Alors, rien n'est jamais si réversible que ça en architecture, on l'a dit, mais c'est évidemment plus réversible quand même que des trucs faits avec du béton et... vous voyez, qui seraient quand même... Parce qu'en fait, ce que vous avez, c'est en quelle matière ? Voilà. C'est, alors, l'intérieur est en bois. Pourquoi l'intérieur est en bois, d'ailleurs ? Voilà, parce que la voûte était en bois, à l'origine. C'était une voûte en bois. Donc, elle a été faite en bois parce que c'était en bois. Et l'extérieur est en quoi ? En tôle. Alors, c'est en tôle de cuivre, en fait. Hein. Et pourquoi est-ce qu'on a mis la tôle de cuivre dehors ? Enfin, sur le bois, quoi. Alors, effectivement, c'est pour, notamment pour trouver... Parce que le cuivre, se patinant... au bout d'un moment, une couleur brune qui rappelle tout à fait la couleur du toit, effectivement. Bon, il y a aussi que le cuivre est plus pérenne que le zinc, par exemple.
Oui,
hein,
c'est sûr.
Hein. Mais il est plus cher.
Ah, il est beaucoup plus cher. Mais oui, ça, c'est vrai. Mais plus pérenne. Et l'intérêt aussi, c'est que le cuivre est un métal noble, si vous voulez, ce n'est pas le zinc, qui a évidemment un côté un peu plus haussmannien, parisien, si j'ose dire, vous voyez. Et puis, il y a une dernière chose, c'est l'heure de toute façon, et j'ai bien vu qu'il était 7 heures. Hein. Et il y a une dernière chose, enfin, qui, à mon avis, est intéressante dans cette proposition-là, c'est quoi ?
Le cuivre.
Le cuivre est l'action générale de l'architecte par rapport à ça.
Ah oui.
Ben, à mon avis, c'est que ça se voit. C'est-à-dire que quand on voit ça, à mon avis... Hein, on ne peut pas se dire que la voûte, qui pourtant reprend la forme de la voûte, c'est-à-dire qu'il a, en clair, il n'a rien inventé, entre guillemets, hein, il est difficile de se dire que c'est la voûte du Moyen-Âge. Parce qu'il est rare de voir des voûtes qui restent comme ça. Voilà. Donc, cette déontologie que l'on disait, qui est de dire qu'une bonne restauration doit aussi se voir, tout en étant logique, je crois que quelque part ça se voit. Alors, je ne vais pas vous montrer ça pour vous dire, voyez, enfin un bon exemple. Je crois qu'il n'est pas trop mal. Hein, on peut ne pas être trop mécontent. Bon, voilà. Mais non, mais je n'ai pas fait lancer l'esprit, etc. Mais, non.
C'est vraiment la conservation.
Voilà, c'est de la conservation. Alors, il faut dire quand même qu'il y a aussi les questions financières qui ont joué, hein, parce que. Évidemment, on peut reconstruire toute la partie manquante aussi, hein, mais ce n'est pas le même coup. Hein.
Mais c'est assez structurel aussi.
Voilà. En plus, à la fois c'est respectueux, ça conserve, c'est respectueux. On voit que c'est moderne et pas ancien, donc c'est clair. Et je trouve que, effectivement, plus que d'enlever ou de simplement refaire, etc., ça ajoute quelque chose. Je suis d'accord avec vous, je trouve que c'est... Voilà. Voilà. Et après tout, on a le droit de vivre au XXIe siècle. Voilà. Pardon ? Pourquoi pas ? On va faire maintenant un TP sur place.
Pour une visite, pas de problème.
Ah bien, mais on pourrait. On pourrait, tout à fait. Ah ben écoutez, on pourrait faire ça.
Avec vous.
Ah oui, oui. Ben écoutez, voilà, on en parlera au moment du prochain atelier. Par parenthèse, la séance... Bon, encore une fois, j'ai terminé par ça, pas parce que, par exemple, je trouve que Fréjus, c'est peut-être... C'est plus rude, hein, mais c'est peut-être, tout en étant très gonflé, c'est peut-être très, très réussi. Moi, j'ai pas vu Fréjus, donc c'est... Mais voilà, hein, on a vu des choses comme... Alors, pareil, on a vu qu'il y avait pour le compte, etc., mais enfin, je crois que c'est pas une mauvaise restauration, etc. Donc voilà, c'est pas Germol pour dire ah ben on termine par quelque chose de bien.
Mais
bon, si c'est bien, tant mieux. Hein. Mais voilà, l'idée est plutôt de montrer à travers des cas de figure, des cas différents, parce qu'on a, il était bien qu'il y a des visiteurs qui viennent à Germol et on se fait engueuler pour ça. Hein. Ah, on en a. Hein. Ah oui, oui, oui.
Il y a des ronchons.
Oui, oui, ben, mais en même temps, c'est. Enfin, pourquoi pas, hein, on est pas. Alors, on a des arguments, mais il arrive enfin, qu'il y a des gens qui ne soient pas contents. Que
les critiques sont faites par des gens qui s'y connaissent un peu.
Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que voilà, ce n'est pas quelque chose qui, d'emblée, emporte l'adhésion de tout le monde. C'est ça que je voulais dire. Voilà. C'est aussi pour ça que je vous le montrais, parce que voilà, c'est aussi. Quelquefois, c'est un peu punchy. Bon, écoutez, bonne soirée. C'était la fin de cet atelier.